Bien, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Pour commencer, je voulais remercier d'abord les responsables de ce laboratoire Silencio, qui me donnent la possibilité de venir à l'ENS Lyon pour la première fois aujourd'hui, et en particulier, bien sûr, à Lou, même si elle ne peut pas être avec nous aujourd'hui, pour son invitation. Donc, l'objectif de ma communication est de vous présenter Chuka Rompe el Silencio, un jeu vidéo disponible en ligne sur ordinateur et smartphone, développé en 2018, donc il est assez récent, au Mexique par Gargamel Studio, dans le cadre d'un projet éducatif, comme l'a dit Amalia, mené par l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, l'ONUDC pour faire plus court, dans plusieurs pays d'Amérique latine. Son but est de sensibiliser des enfants de 7 à 12 ans, donc on est un peu dans les mêmes âges que les cas traités par Sarah, au danger du cyberharcèlement et lutter contre les violences qu'il génère parmi les plus jeunes utilisateurs d'Internet, en particulier sur les réseaux sociaux. Dans ce jeu, on incarne Chuka, une jeune youtubeuse de 13 ans, alors qu'elle est plongée dans un cauchemar au cours duquel elle est amenée à combattre des monstres imaginaires qui lui sont inspirés par ses expériences quotidiennes. Au fil d'une aventure rythmée, j'essaye de changer la diapositive. Au fil d'une aventure rythmée à coups de bataille dont les armes sont des emojis, l'objectif recherché est que le joueur apprenne à détecter et à agir face à des situations de harcèlement réel et virtuel de toutes sortes. En ce sens, dans les trois idées reçues sur Internet, le sociologue Antonio Casilli met en évidence l'idée fixe selon laquelle le fait d'aborder un sujet en rapport avec le numérique et Internet nous amènerait forcément à opposer le concept de réalité à celui de virtualité. Comme si les dispositifs numériques, tels que ce jeu de plateforme, créaient forcément un univers parallèle, une version dématérialisée d'une autre. Et bien que cette idée sous-tende une vérité qui gagne du terrain chez ceux qui, aujourd'hui, prônent le développement des mondes virtuels et du métaverse, tâchons néanmoins de ne pas en faire une généralité. Et même plus, de l'exploiter pour l'étude de ce jeu vidéo. Pour cela, il est aisé de s'appuyer sur la réflexion menée par Pierre Lévy dans son ouvrage Qu'est-ce que le virtuel, publié en 1995, c'est-à-dire à une époque où le numérique commençait à peine à se démocratiser. Après un bref rappel étymologique du terme, je le cite, le mot virtuel vient du latin médiéval virtualis, lui-même issu du latin virtus, virtus, force, puissance, le philosophe veille à décrire par les propos suivants le processus en cours à la fin du XXe siècle. En toute rigueur philosophique, le virtuel ne s'oppose pas au réel, mais à l'actuel. Virtualité et actualité sont seulement deux manières d'être différentes. Réalité et virtualité n'étant finalement pas si incompatibles que cela, d'autant plus face à des situations de harcèlement en ligne où l'actualisation, comprise dans ce sens comme le concept linguistique, peut justement être une solution au problème. En effet, selon Charles Bali, l'actualisation a pour fonction de faire passer la langue dans la parole. Et quoi de mieux que la locution verbale Romper el silencio, qui donne son sous-titre à notre jeu, pour illustrer en quoi celle-ci, l'actualisation, consiste. Romper el silencio, briser le silence ou sortir du silence en français, exprime justement l'idée du passage d'un état passif, dans le cas du cyberharcèlement, celui des violences subies dans la sphère virtuelle, à une libération de la parole. Et si l'action d'actualiser les agressions en mettant des mots dessus semble être une des portes de sortie au cercle vicieux du cyberharcèlement, le fait de virtualiser ce fléau, en le déterritorialisant des réseaux sociaux via des immersions détournées dans un jeu vidéo, ne serait-il pas justement un moyen de lui octroyer davantage de réalité, ou tout de moins une réalité tout aussi efficace et légitime? C'est en tout cas dans cette idée que l'étude de Chuka rompe el silencio depuis le prisme du silence me semble une manière pertinente de prouver que la complémentarité latente entre les notions de réalité et de virtualité permet de dévoiler les mécanismes politiques, ludiques et éducatifs en présence dans ce jeu. Pour commencer, le cyberharcèlement est défini par l'éducateur Peter K. Smith comme, je le cite, un acte agressif, intentionnel, perpétré par un individu ou un groupe d'individus au moyen de formes de communication électronique, de façon répétée à l'encontre d'une victime qui ne peut facilement se défendre seule. Généralement réduit à une forme de violence entre pairs, ce type d'agression intrinsèque aux technologies de l'information et de la communication, les fameuses TIS, est surtout associé à l'une des formes du bullying liées au monde de l'enfance. En revanche, on omet bien souvent qu'Internet n'est pas qu'un média de jeunes et que de ce fait, le harcèlement en ligne couvre des actes qui dépassent de loin les capacités d'imagination d'un enfant qui croit être en sécurité derrière son écran. Comme la plupart des formes de harcèlement, celui qui sévit en ligne peut donc facilement être conçu comme une violence silencieuse, voire même parfois totalement imperceptible. Ce sont ce genre de silence que tentent de lever des initiatives comme Chuka. Mais la création de ce jeu vidéo ne peut être saisie sans prendre en compte les enjeux politiques qui l'entourent. Ces dernières années, la lutte contre le cyberharcèlement est en effet devenue le cheval de bataille d'institutions internationales cherchant à combattre la criminalité depuis l'intérieur, notamment chez les plus jeunes. C'est le cas de la fameuse Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, l'ONUDC, qui compte 5 bureaux régionaux en Amérique latine, dont celui situé au Mexique, un pays où pas moins de 21% des enfants de plus de 12 ans déclarent avoir déjà été victimes de cyberharcèlement. Et pour cause, bien que la création de l'ONUDC date de la fin des années 90, ce n'est que très récemment qu'elle s'est intéressée à la manière de se prémunir contre les formes de violence liées au développement des réseaux sociaux. C'est en ce sens que dans la déclaration de Doha sur l'intégration de la prévention de la criminalité et de la justice pénale de 2015, ces partis ont déclaré vouloir, je cite, « faire en sorte que les retombées des progrès technologiques constituent une force positive allant dans le sens des efforts déployés pour prévenir et combattre les formes de criminalité nouvelles et émergentes ». Par ces mots, si l'on comprend que les TIS sont conçus comme des moyens de prévention, elles peinent encore à être clairement discriminées parmi les dites nouvelles formes de criminalité. Cette tendance semble cependant être renversée par le Programme mondial pour l'implantation de la déclaration de Doha à travers les projets lancés dans le cadre de l'initiative Education for Justice qui prétendent, je cite, « soutenir l'intégration de la prévention du crime et de l'état de droit à tous les niveaux d'éducation » et plus concrètement, à former les enfants à l'identification et à la résolution de conflits en milieu scolaire. Parmi ces projets, un module pédagogique est notamment laissé à la disposition des enseignants pour aborder en classe des thèmes en rapport avec la sécurité sur Internet et la prévention de la cybercriminalité. Chuka rompe el silencio est l'un des outils proposés au cours de cette séquence pédagogique et pourtant le seul parmi tous ceux présents à avoir par sa nature de jeu vidéo en ligne un lien direct avec le cyberharcèlement. Néanmoins, il serait réducteur de résumer Chuka à un jeu de prévention contre le cyberharcèlement, car au-delà du cadre institutionnel et global dans lequel il a émergé, il naît avant tout de préoccupations bien plus régionales. D'abord, il est l'occasion de rappeler, comme le fait un rapport de 2017 réalisé par plusieurs organisations de défense des droits civiques et numériques d'Amérique latine, que dans une région particulièrement caractérisée par les violences de genre, je cite ce rapport, « La violencia por medios electrónicos no es algo nuevo ni único a las plataformas, sino un continuum de la violencia machista que atraviesa la cultura en nuestros países. » En effet, l'idée de « romper el silencio » qu'on retrouve dans le titre du jeu résonne comme un fort écho à d'autres créations culturelles contemporaines, telles que l'association féministe lesbienne chilienne « Rompiendo el silencio » créée en 2013 et issue du collectif éditorial de la revue du même nom, mais aussi le roman « Rompiendo el silencio » de l'auteure costaricaine Sandra Sofeifa, et plus récemment, un ouvrage collectif de récits et témoignages de victimes, Romper el silencio, juntas somos más fuertes. En ce sens, dès son lancement symbolique le 8 mars 2018, date de la Journée internationale des droits des femmes, Chuka est considéré comme el videojuego para ayudar a las niñas a romper el silencio sobre la violencia de género. Un argument d'autant plus fort lorsqu'on sait qu'il a été développé par une équipe majoritairement féminine au sein de Gargamel Studio et que son lancement s'est fait depuis le Centro de Cultura Digital de México qui soutient ce combat. Ainsi, l'une des forces du projet de Chuka est peut-être d'avoir su s'exporter hors des salles de classe pour avoir une incidence plus directe sur de potentiels internautes puisque sa thématique touche un public plus large. D'abord à un niveau national, l'ONUDC en a fait la promotion dans le métro de la capitale mexicaine, comme vous pouvez le voir sur l'image en bas à gauche, afin d'inviter ses usagers, enfants comme parents, à télécharger le jeu. À plus forte raison lorsqu'on imagine les transports en commun comme des lieux privilégiés de scènes où l'on peut être victime ou témoin de violences de genre quotidiennes. Dans la même lignée, récemment, une BD inspirée du jeu a été traduite de l'espagnol à quatre langues autochtones, dont le chol, le maya, le zapoteco et le tzotzil, s'ouvrant ainsi au caractère multiculturel du pays. Ensuite, au-delà des frontières mexicaines, l'ONUDC a veillé à diffuser Chuka au niveau régional, en favorisant d'abord une coopération avec ses partenaires, menant à la sensibilisation et à la formation de fonctionnaires de police péruviens et équatoriens, puis en Argentine, à celle des étudiants et enseignants de l'Universidad de Quilmes, qui ont conçu cette expérience sociale comme un projet de recherche en soi. Donc, une fois ce panorama politique dressé, il nous sera plus facile d'appréhender les modalités du silence en présence d'Anchuca. Pour ce faire, nous adopterons la méthodologie et la terminologie utilisées par Marc Marty et Emmanuel Vincenot, les quelques hispanistes à s'être jusqu'alors aventurés à choisir le jeu vidéo comme objet d'étude, en nous invitant à considérer celui-ci comme un texte vidéoludique. Je les cite. Dans ce que nous pouvons donc considérer comme le péritexte de Chuka, la thématique du silence est déjà palpable. Dès l'entrée dans le jeu, la chanson identifiée sous le titre de Chukaton dans les crédits résonne tel un hymne reconnaissable annonçant l'arrivée du personnage. Et pourtant, après quelques secondes de musique, le silence se fait et on n'entend plus alors que le bruit saccadé de nos clics sur une interface introductive où il est demandé au joueur de répondre à des questions visant son identification. Si la plupart d'entre elles, comme celles liées à l'âge, au cursus scolaire en cours ou au pays d'origine, vous imaginez que pour moi ça a été assez compliqué de dire que j'étais en primaria ou des choses comme ça. Voilà. Donc, si ces questions semblent plutôt remplir des fonctions statistiques, sûrement précieuses aux yeux des concepteurs du jeu, une question se détache cependant du lot. Il s'agit de celle interrogeant le sexe du joueur, qui, au-delà du traditionnel diptyque niño-niña, présente une troisième alternative, autre, souvent tu, et qui fait pourtant écho au débat actuel sur la transidentité chez les enfants, l'assignation sexuelle à la naissance, l'éducation non genrée, et qui laisse ici l'opportunité à n'importe quel internaute de s'approprier le genre qu'il choisit à travers son identité numérique. Pourtant, contre toute attente, dans une seconde phase d'identification, c'est bien un personnage féminin, une jeune fille de 13 ans, qui est imposé comme unique personnage jouable. En cela, Chuka se veut une réponse à la surreprésentation masculine dans les jeux vidéo et entend diffuser la cause féministe chez les enfants. Ainsi, les concepteurs du jeu expliquent: El hecho de que la protagonista sea un personaje femenino pretende ayudar a romper los estereotipos de género de las y los jugadores. Además, abre la posibilidad de empoderar a las niñas y generar aprendizajes en los niños sobre lo que enfrentan las mujeres diariamente. Pas d'incohérence à l'horizon, donc, au contraire, il y a plutôt là un projet mûrement réfléchi et engagé, qui échappe sûrement à la compréhension des enfants, mais qui les met en contact avec une pluralité de réalités. De cette manière, les options de personnalisation du personnage, vous voyez les miennes ici, sont majoritairement non genrées et assurent son appropriation progressive. Au fil de la partie, il est possible d'acheter de nouveaux vêtements, accessoires et coupes de cheveux pour créer l'avatar de son choix, ce qui motive le joueur à poursuivre la partie. L'idée étant que si un enfant ne peut exprimer sa personnalité au quotidien, il a là une possibilité de le faire sans craindre la discrimination. En somme, tout se passe comme si dès le démarrage, un ensemble d'éléments pragmatiques était mis en place pour assurer la confiance du joueur. Cette tentative se poursuit dès l'arrivée sur l'écran-titre. Sur cette seconde interface, au-delà des options proposées au premier plan, c'est-à-dire l'accès aux 5 niveaux, à un tutoriel, aux réglages, etc., une image en arrière-plan commence à tisser le récit de Chuka, que l'on voit endormi sur un chausson. Un récit exclusivement pictural qui se poursuit sur les quelques images que vous voyez ici, qui inaugurent le jeu et qui lui servent d'incipit ludo-fictionnel. J'emprunte encore la terminologie à Vincenot. Sur la première, un dessin représente Chuka en lui associant des icônes censées la définir. On comprend qu'elle aime la musique, les jeux vidéo, son ami Lottie l'axolote, et qu'elle n'aime pas les calculs, courir et la violence. Sur la deuxième, en haut à droite, Une capture d'écran nous montre ses activités sur les réseaux. Elle est propriétaire de la chaîne Chuka Gaming, sur laquelle elle partage ses passions avec ses abonnés et s'expose donc à leurs commentaires. Sur les dernières, les deux du bas, on comprend qu'elle s'endort avant la fin de sa partie, nous laissant supposer qu'elle est sur le point de passer de l'autre côté de l'écran. Cette deuxième phase préalable au lancement de la partie fait donc le pari de se contenter de livrer au joueur un ensemble d'informations contextuelles, passives, sur le contexte du jeu. Et pour cause, au cours de cette scénarisation de l'avant-jeu, aucun son, ni même une voix off, ne viennent appuyer le récit, alors que c'est pourtant le propre d'un genre caractérisé par son audiovisualité. Comme si finalement, la thématique du silence s'invitait jusque dans son fonctionnement. Mais est-ce le cas une fois qu'on se trouve dans le jeu? In-game, c'est-à-dire une fois la partie commencée, nous sommes plongés dans le monde onirique, ou plutôt fantasmagorique, de Chuka. Mis à part un bref tutoriel qui nous apprend à nous mouvoir dans cet espace de plateforme, c'est la teneur hautement cauchemardesque de l'espace de jeu qui s'impose, à travers plusieurs éléments intradiégétiques. D'abord, le décor de ce premier niveau est totalement gris et empli de détails qui font froid dans le dos. On voit des araignées, des poupées vaudou, des clowns, des pères dieux qui sont menaçants, etc. À cela s'ajoute la taille disproportionnée de Chuka dans ce décor. Telle une Alice, la jeune fille est minuscule dans un monde de grands et se déplace sur ce qu'on comprend être les meubles de sa maison. Enfin, c'est encore une fois l'absence quasi totale de son qui donne son ton au jeu. À l'exception d'un thème musical qui se résume à quelques accords de synthétiseur dignes d'un film d'horreur et qui s'interrompt peu après, Chuka est essentiellement un jeu muet. En effet, tout semble ici être mis en œuvre pour matérialiser les silences du cyberharcèlement chez les jeunes. D'abord, cela se remarque sur les messages de haters inscrits sur les murs, qui vont directement à l'encontre de Chuka, vous les voyez ici. Eres la peor gamer del mundo, das asco, manchas la reputación de todos, et qui sont chaque fois plus virulents. Hashtag el mundo te odia, morirás. Mais cela se voit également dans les lieux choisis pour illustrer les différents niveaux et les types de violences qu'on peut y rencontrer. Dans le niveau 1, une maison pour le cyberharcèlement. Dans le deuxième, une école pour le harcèlement scolaire. Dans le troisième, une ville pour le harcèlement de rue. Si ces premiers niveaux sont tous empreints de la même charte graphique grisâtre, une évolution chromatique au cours des niveaux 4 et 5, des extensions ajoutées en 2019, octroie cependant chaque fois plus d'importance aux couleurs, comme si on passait du rêve à la réalité. Et bien qu'il reste tout de même des endroits de danger, une nouvelle rue de nuit dans le niveau 4 et un parc d'attractions désert dans le 5, ils symbolisent tout de même une progression de l'aventure de Chuka dans son combat contre ses démons intérieurs, au point d'aller jusqu'à mettre en avant les couleurs du drapeau arc-en-ciel, emblème paradigmatique de la liberté et de la diversité. C'est donc plutôt vers une évolution positive de résolution des situations de danger que semble tendre le jeu. Reste encore à savoir comment il parvient à briser les silences du cyberharcèlement. Bien que Chuka soit un jeu de plateforme, il n'en reste pas moins que ses parties sont rythmées par une série de combats. En effet, la jeune fille rencontre au fil de son aventure deux sortes de créatures. Des Moji Monsters, totalement inoffensifs, qu'il faut détruire pour obtenir les emojis nécessaires au combat avec les monstres, ceux qui sont les véritables adversaires de Chuka. Ces monstres, les concepteurs du jeu, expliquent les avoir créés à partir de dessins d'enfants, en rappelant l'utilité de ceux-ci dans l'expression des peurs et des inquiétudes vécues par les plus jeunes. De cette manière, plus que de simples représentations maléfiques, ils incarnent ici un rôle de support, comme l'expliquent les concepteurs du jeu. Así, los monstruos del videojuego representan situaciones a las que se enfrentan las niñas, niños y jóvenes en su vida cotidiana. No se trata de monstruos buenos o malos, sino de seres que aparecen en la pesadilla de Chuka para ayudarla a enfrentar asertivamente los diferentes tipos de violencia a los que está expuesta en la vida real. Ces différents types de violences sont en effet exprimés par des monstres de catégories distinctes, parmi lesquels les monstres agressifs, vous en avez un exemple ici, qui font preuve soit de violences physiques, psychologiques et sexuelles, les monstres non agressifs, qui expriment leur passion et passe-temps, les monstres d'empathie, qui attendent une réaction de la part de Chuka, et les monstres témoins, qui exercent des violences dont Chuka est la spectatrice. Cette typologie tente de refléter une diversité de situations de conflit face auxquelles un enfant peut se trouver. De la sorte, si le joueur est dans de nombreuses situations la victime d'un seuleur, on attend surtout de lui qu'il en soit acteur de cette situation, que ce soit pour contrer les attaques de son ennemi, défendre un camarade ou faire la connaissance d'un inconnu sans le juger sur son apparence. Tel est le cas de Lobito, un cynocéphale qui, malgré ses dents tranchantes, est décrit comme « muy sensible ». Ainsi, là où les premiers niveaux opposent caricaturalement des situations avec ou sans danger, les plus récents testent la capacité d'adaptation des enfants en brouillant les repères. À titre d'exemple, il n'est pas rare d'y retrouver des monstres agressifs battus dans les premiers niveaux. Dans des situations où Chuka doit, à présent, dans les niveaux 4 et 5, leur exprimer son empathie. À cette fin, les informations délivrées sur les monstres dans des fiches personnages débloquables au cours de la partie tentent de justifier les raisons de leur comportement. Un exemple probant est celui de Meni, que vous voyez ici en bas à droite, un monstre à la forme de pénis qui abuse sexuellement de ses victimes alors qu'il l'a lui-même été avant de devenir harceleur. Sa fiche explique « Cuando era chico, alguien abusó de él y de su hermana, y nadie les creyó. » Mais face à cette diversité de solutions, comment le joueur apprend-il à réagir de manière adéquate? On se rappelle du mot « assertivamente » qu'utilisaient les concepteurs du jeu. En d'autres termes, comment détecte-t-il s'il est face à une situation de danger qui requiert son intervention et de quelle manière se défend-il dans ces cas? C'est en cela que réside tout le fonctionnement de Chuka, qui, au-delà de sensibiliser aux formes du cyberharcèlement, prend au mot les plus jeunes internautes en incluant dans le jeu un code de communication propre à la sphère virtuelle, les emojis. Dans ce cadre, il faut en effet concevoir le potentiel des émoticônes et autres smileys à être, selon les mots de Michel Marcoccia, une représentation iconique des émotions dans la communication médiatisée par ordinateur. En d'autres termes, un mode de communication non verbal comme l'est le silence. Voici une idée de leur fonctionnement dans le jeu. Durante las batallas, los diálogos entre los monstruos y Chuka se llevan a cabo a través de estos emoticones, los cuales representan la acción del monstruo y la reacción de Chuka respectivamente. Dichas reacciones están agrupadas por categoría y cuentan con valores que restan o suman puntos de acuerdo a su nivel de asertividad. On retrouve le mot. De la elección que haga Lau el jugador de las reacciones dependerá el resultado de la batalla. De ce fait, un mauvais choix d'emoji pour réagir face à une situation favorisera la victoire du monstre sur Chuka qui vivra dans son cauchemar le type de violence combattue. A l'inverse, une compréhension du mécanisme du jeu permet de rapidement faire face à tout type d'adversité. Finalement, ce fonctionnement se résume à deux idées essentielles et assez simplistes. D'un côté, Chuka ne doit en rien rester passive face à un acte d'agression ou d'intimidation. L'enfant comprend par là que la fuite ou la peur ne sont pas des solutions à la résolution du conflit. De l'autre, le joueur doit toujours conserver une attitude non violente vis-à-vis du monstre, sans quoi il perdra contre lui à tous les coups. Le jeu se base donc sur un système de répétition et d'apprentissage par l'erreur, censé permettre à l'enfant l'intégration d'automatismes qui lui serviront dans la réalité, et en même temps, il apprend aux victimes d'agression à sortir de leur silence, mais de manière originale, puisque c'est par un autre moyen que par la parole. Plus encore, le système d'emoji proposé gagne en complexité, obligeant le joueur à réfléchir au sens de chacun d'entre eux, lorsqu'il doit entrer dans le Moji Mix, un laboratoire qui prend la forme d'une table de mixage. C'est ce que vous voyez en haut à gauche. Où il est invité dans ce Moji Mix à combiner différents emojis pour obtenir une attaque plus puissante ou une réaction plus complexe que celle de base, c'est-à-dire la joie, la peur, les pleurs. Cependant, un joueur expérimenté, c'est-à-dire moi au bout d'une heure et demie, se rend rapidement compte que parmi les nombreuses combinaisons possibles, seules sont efficaces celles qui condamnent la situation en cours. On retrouvera les emojis stop, non du doigt, arrête, le sens interdit, et celles qui demandent l'intervention d'un adulte, les emojis ayuda, familia, escuela o policía. Chuka rompe el silencio laisse donc clairement sous-entendre que les enfants ne sont pas les seuls publics concernés par le jeu comme par le thème du cyberharcèlement et que les adultes ont, eux aussi, un rôle à jouer au cours de cette expérience virtuelle. En guise de conclusion, bien qu'il soit difficile de juger des résultats d'une expérience ludo-éducative numérique comme celle-ci, et plus largement des projets de politique numérique, tant elles sont à la fois innovantes et récentes dans les agendas des institutions d'État, force est de constater la volonté grandissante des gouvernements latino-américains de sensibiliser les citoyens de demain à un paradigme de société technologique qui est déjà en plein essor, la fameuse citoyenneté numérique. Dans le cas de Chuka rompe el silencio, les quelques témoignages et reportages diffusés par l'ONUDC sur YouTube semblent prouver la forte adhésion des publics sensibilisés au concept du jeu. Al fin, hay un juego que no es muy sangriento ni violento y que me ayuda a prevenir cosas que ni me imagino, explique Evangelina, une élève de l'école Florencio Varela de Buenos Aires. À travers ces images, on comprend que le jeu est avant tout utilisé comme support pédagogique hors du milieu scolaire et qu'il sert à alimenter des réflexions communes a posteriori en classe. Car c'est justement dans ce cadre extrascolaire que Chuka semble s'être révélé d'une importance majeure, précisément lors des premiers confinements pour cause de pandémie mondiale, au cours desquels la connexion à Internet des plus jeunes a été l'une des formes de la continuité pédagogique. Pas étonnant dans ces conditions que Gargamel Studio, les concepteurs de Chuka, aient réalisé à cette époque le premier court-métrage dans lequel apparaît leur emblématique protagoniste, qui doit cette fois faire face à une situation beaucoup plus réaliste, dans un registre bien moins silencieux. Et donc, dans l'idéal, j'avais une vidéo pour vous montrer le court-métrage, mais vous avez ici des photogrammes. Donc, si nous commençons en bas à droite, avec cette poursuite de Chuka qui se fait harceler par un monstre à tête de porc. Et ensuite, nous sortons de ce cauchemar de Chuka, nous la retrouvons en train de jouer sur son écran, et on voit sur le photogramme en haut à droite qu'un usager lui demande « ¿Quién eres ?». On bascule ensuite sur l'écran de cette personne et on voit en fait qu'il est en train de se créer un faux profil en cherchant « Chico Ruapo » sur Google. Voilà. Et qu'il lui permet ce faux profil d'entrer en contact avec Chuka, qui, rappelons-le, a 13 ans, en lui demandant « ¿Dónde vives ?». Ce par quoi lui répond Chuka en lui envoyant directement enviar ubicación actual, c'est-à-dire son lieu de résidence. Et d'un seul coup, nous avons cette tête du monstre porcin qui sort de son écran et on entend les cris de la jeune fille. Donc en fait, la différence entre ce jeu et le court-métrage qui a été fait, donc, ouais, c'est aussi toujours une vidéo de prévention. Mais d'un seul coup, une fois que cette vidéo de prévention que j'ai qualifiée de court-métrage se retrouve sur YouTube, là, elle gagne en dynamisme, elle gagne en son, ce que n'a pas réussi à faire dans un premier temps le jeu vidéo. Donc je vous invite à aller regarder, à aller jouer et à aller regarder la vidéo pour voir la différence. Merci beaucoup.
Merci à toi.
Merci.